Bonjour, bonjour, comment vous allez bien? Est-ce que vous me recevez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous allez bien? Ah, je vois pas encore la chatroom. Est-ce que mon réseau ferait des siennes? Oui. Ok, 5 sur 5, nickel, on me reçoit bien. Salut tout le monde, salut Damien, salut Samuel, Yves. Ellie, etc., etc. Bonjour au premier dans la chatroom. J'espère que vous avez bien dormi. Attendez, je baisse un peu la luminosité de mon iPad. Et on va remercier nos tipeurs ce matin. Je dois faire 151 à 155. Ok, alors ce matin, j'aimerais remercier MrB78, Richard, Ronan, Zélacnor et Bataclic Chris, merci à toi. Un mode ralenti, il y a un mode ralenti dans la chatroom? Ah, c'est nouveau peut-être. Je sais qu'il y a une mise à jour de YouTube sur l'appli, donc c'est peut-être ça. Voilà, on remercie nos tipeurs qui tipent depuis 17 mois grâce à eux. Nowtech existe et vous pouvez nous voir tous les matins et le reste du temps sur la chaîne principale Nowtech, nos vidéos. Voilà, de quoi on va parler ce matin dans TechScope? Eh bien, je n'ai pas ouvert mon sommaire, ce que je m'empresse de faire. Aujourd'hui, on va reparler de YouTube et des histoires de vidéos pour enfants, puisque là, c'est les annonceurs qui s'en mêlent et qui commencent à boycotter YouTube, et l'affaire est assez grave pour qu'on en reparle. On parlera également de Tumblr. Le président fondateur de Tumblr, David Karp, est muet. Non, c'est pas une bonne blague. S'en va de Tumblr après 11 ans, ça a déjà 11 ans Tumblr, ça va vite. Hein. On parlera également de Molotov TV qui va pas très très bien. Et justement, on parlera un petit peu du problème de Molotov TV. On parlera également de Facebook qui fait appel à l'intelligence artificielle pour une meilleure prévention des suicides. Et on verra effectivement un usage peut-être positif effectivement de l'intelligence artificielle. On parlera rapidement de SoftBank qui aimerait acheter des parts d'Uber. Et ouais, en ce moment, faut être courageux pour en acheter. Mais justement, ils aimeraient les acheter 30% moins cher. Hein, pas fou chez SoftBank. On parlera également de Snapchat qui sort des nouveaux filtres intelligents justement avec de la reconnaissance d'image. On parlera également de Motorola qui ridiculise Samsung, qui Samsung avait ridiculisé également les iPhones dans une pub. Ça s'appelle l'arroseur arrosé. On parlera également, pour vous qui êtes complètement addict à votre smartphone, d'une solution que propose un artiste, une solution assez originale pour vous défaire de cette addiction. Et je terminerai, je veux pas trop vous en dire, parce que je veux vraiment vous révéler cet article à la fin, mais un truc qui m'a fait hurler de rire, mais bon, j'ai un humour comme ça, et ça vient de chez nos amis les Belges, et c'est vraiment quelque chose qui m'a fait hurler de rire. Je vous en parlerai à la fin, je veux pas vous en dire plus, sinon je vais vous spoiler le truc. Voilà en tout cas pour le sommaire de ce TechScope numéro 2, 500, 602, 602, 602. J'avais oublié qu'on était passé à 600. 602, c'est ça. Ah oui, je vois que Victor a déjà deviné, mais ne spoil pas. Ne spoil pas. Ne spoil pas. Allez, on va pouvoir commencer ce TechScope. Votre café est bien dans les tasses, le thé est versé, le chocolat fume. On va pouvoir commencer ce TechScope. Vous êtes déjà 175 dans la chatroom. Il y a du monde de réveillé. Pas eu la notif. Je suis bien en public, oui, normalement, oui. Écoute, on n'a jamais bien compris comment marchaient les notifs. De YouTube, il faut vous de votre côté bien vous assurer que vous n'êtes pas simplement abonné à la chaîne, mais que vous avez également coché la cloche pour avoir les notifs de cette émission. Parce que si vous êtes juste abonné à la chaîne, vous aurez les notifs de temps en temps, en fait. Mais, ouais, les notifs sont aléatoires même avec la cloche, ok. Sinon, voilà, il suffit de se mettre un petit rappel, un petit réveil à 8 heures sur votre smartwatch, sur votre smartphone, sur votre vieux réveil qui fait tic-tic. À vous de voir. Moi, ça fait 2 jours, j'ai pas de pop-up, du coup, j'ai mis la cloche. Eh bien, écoute, très bien. Vertige, bonjour à toi. Oui, mais tu sais, les thumbs up, il y a toujours, c'est déjà bien, hein, 10% de gens qui mettent des thumbs up. Hein. C'est déjà pas mal. Je peux te dire que c'est moins que la moyenne sur YouTube. Et ça demande un effort, hein, de mettre un thumbs up. Hein. C'est du boulot. On s'en rend pas compte, mais c'est du taf de cliquer sur un pouce pour dire « j'aime bien ta vidéo ». Moi, j'apprécie le geste. Je suis un peu ironique. Mais attends, je suis le premier à oublier de mettre des thumbs up sur des vidéos que j'aime bien. Hein. Je suis pas bien non plus. Allez, on commence. On va parler effectivement de YouTube. YouTube qui est dans une spirale un peu infernale en ce moment. Ça a commencé effectivement avec l'article, les enquêtes de la BBC et The Times sur du contenu pour enfants qui n'en étaient pas. On vous en avait déjà parlé, je ne vais pas vous faire l'article, c'était Marion qui vous avait montré et expliqué un petit peu le problème. Le problème devient de plus en plus sérieux. Il y a eu 2 nouveaux phénomènes là-dedans. Le premier, c'est que ils se sont aperçus aussi que l'auto-remplissage dans le champ de recherche, hier, par exemple, des gens ont tapé « how to », « comment faire », How to, et la première suggestion, c'était comment avoir des relations sexuelles avec ses enfants. Le truc, waouh. Et les autres propositions n'étaient pas très glorieuses non plus. On sait que ces propositions, hein, l'autofil en fait d'une barre de recherche, vient généralement d'un système des recherches les plus faites. Qui effectivement remonte, hein. Vous avez déjà vu pas mal de blagues sur ce genre de choses. Alors, moi j'ai lu quelques articles là-dessus, il y a une hypothèse aussi que, en fait, ça aurait été pas un hacking, mais en tout cas une intervention de gens un peu malveillants qui auraient écrit cette phrase sur YouTube et ils auraient demandé à plein de gens de le faire. Parce que il y a eu en même temps un, je sais plus si c'était un tweet ou un papier de l'extrême droite américaine disant regardez, on s'en prend à nous sur Twitter et sur YouTube ils font rien contre les pédophiles. Donc c'est quelque part un moyen de voilà, il faudra attendre d'être au fin mot de cette histoire, mais ça ressemble un peu à une manœuvre, effectivement, de gens qui ont voulu faire remonter une espèce de preuve qu'il y avait plein de pédophiles sur YouTube. Attention, oui, Félix, de ne pas faire du spam dans la chatroom, sinon tu vas te prendre un ban. Donc il y a déjà eu ce problème et l'autre problème qui est grave voire très grave pour YouTube, c'est que plein de marques dont Adidas, Deutsche Bank, Mars, Cadbury, Lidl, je crois qu'il y en a d'autres aussi. Attendez, je regarde s'il y en a d'autres. Bon, déjà Mars et ouais Lidl, HP, Sky, Diageo que je connais pas ont annoncé qu'elles retiraient du coup leur publicité de la plateforme YouTube. Alors là où c'est grave, il y a plusieurs choses. Effectivement, d'abord le phénomène est grave et effectivement notamment parce que YouTube dit qu'il sait protéger les enfants de ce type de contenu, notamment en ayant lancé une appli dédiée à YouTube Kids. S'il y a du contenu non approprié qui passe dans cette appli, c'est quand même un gros, gros problème. Mais au-delà de ça, on va sur un problème de modération générale. Et quelque part, c'est un signe des temps. vous avez déjà entendu, il y a pas mal de YouTubeurs qui se plaignent effectivement de problèmes de monétisation en ce moment, parce que les vidéos sont scrutées, on a un espèce de marqueur jaune qui apparaît sur nos vidéos. Pendant ce laps de temps, elles ne sont pas monétisées parce qu'elles sont contrôlées. En fait, elles ne sont pas interdites, les vidéos. Simplement, c'est écrit, cette vidéo semble avoir du contenu non approprié pour les annonces publicitaires. Il y a une chose qu'ils font bien comprendre, et je le vois dans les débats et dans certaines vidéos de YouTubeurs que j'ai vues, il y a un truc que les gens ne comprennent pas. Les annonceurs, les gens qui payent pour avoir de la publicité, c'est pas des pigeons. Ils sont pas là pour financer tout et n'importe quoi. C'est des gens qui font entre guillemets du commerce, qui veulent que leur pub passe devant du contenu qui soit correct et surtout pas avoir du bad buzz d'un contenu associé à leur marque. Mettez-vous à la place un petit peu d'une marque et de voir une vidéo où tu parles de d'enculer ton chat. Excusez-moi, hein, je prends des vrais trucs qu'on voit hein, sur YouTube. Faites pas les innocents, on voit des vidéos où il y a un franc-parler. Et moi le premier, hein, parfois j'ai un langage peu châtié dans mes vidéos. Un annonceur, il n'a pas envie que son produit se retrouve face à ce contenu. C'est d'autant plus grave quand le contenu a des vieux relents pédophiles ou des trucs qui sont très shady pour les enfants. On sait d'autant plus que les gros annonceurs YouTube aujourd'hui, c'est sur le public enfant. Je vous le dis depuis longtemps, la masse audience de YouTube a entre 8 et 13 ans. Il n'y a pas de chiffre, mais moi j'évalue entre 70 et 80% de l'audience totale de YouTube à entre 8 et 13 ans. C'est très très jeune. C'est très 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 jeune. Donc des marques comme Mars effectivement ou des produits de consommation pour enfants, hein, pour qu'ils aient des caries, ou Adidas ou des choses comme ça, bah, c'est très grave si effectivement il y a du contenu qui n'est pas recommandé effectivement pour les enfants. Et du coup finalement YouTube est en train de changer à vitesse grand V. C'est certainement au détriment d'une certaine liberté d'expression. Je pense que il va y avoir certains types de contenus sur YouTube que vous aimiez bien peut-être, où il y avait une vraie liberté de parole, liberté de ton, etc., va disparaître parce que le modèle économique monétisé, il est lié à la pub et qui dit lié à la pub, dit finalement à la merci des annonceurs. Tu sais, plus j'avance dans YouTube, Morpheuse, plus je me dis que le... Écoute, il n'y a qu'à voir les chaînes qui font énormément de vues. Le contenu est adapté, entre guillemets, ou fait pour les 8-13 ans. Je ne serais pas surpris, moi, que ça serait 80% de l'audience de YouTube qui est entre 8 et 13 ans. En tout cas, peut-être 80% en dessous de 20 ans. Il n'y a qu'à voir, quand il y a des réunions de fans de gros YouTubeurs, la moyenne d'âge, quoi. Alors, effectivement, moi, je vous disais, j'étais pas trop touché par le phénomène. Ça y est, je le suis. Je vais vous donner, par exemple, un exemple. La dernière vidéo que j'ai sortie sur le salon de la photo, elle a été interdite de publicité pendant 2 jours. J'ai pas l'impression que j'ai dit des trucs graves dans le salon de la photo, quoi, ni graveleux. Bon, j'ai peut-être dit quelques gros mots, je crois pas me souvenir. Mais en gros, les vues que j'ai fait pendant ces 10 jours, les vues que j'ai fait pendant ces 2-3 jours où j'avais commencé à publier, c'est là où on fait le plus de vues, elles ont pas été monétisées. Et je peux vous dire, par exemple, les Techscope, maintenant, sont très peu monétisés. Ils restent souvent plusieurs jours avec ce petit symbole disant « non adapté à la publicité ». Ça revient après. On sent qu'il y a un contrôle qui est fait après. mais il y a toute une phase, et c'est généralement la phase où on fait le plus de vues, qui n'est pas monétisée. Et donc, c'est pas un mensonge qu'il y a des YouTubers qui ont vu leurs revenus chuter, mais de manière drastique. Il y en a qui sont passés d'un revenu, on va dire, correct, à quasiment plus d'argent du tout. Et le phénomène ne va pas s'améliorer. Pourquoi ? Parce que effectivement, YouTube peut arranger les choses avec plus de modération humaine, en mettant plus de gens. Non, on rattrape pas du tout derrière, Guillaume. En tout cas, sur des grosses chaînes, on va dire que, allez, 80%, c'est mon chiffre du jour, 80% de tes vues, tu les fais dans les 2-3 premiers jours. Donc, tu rattrapes pas du tout l'argent après. Les annonces sont pas passées, elles sont pas passées. On va pas te payer des annonces qui sont pas passées. C'est pas comme quand tu es en conflit pour des droits avec l'argent qui est figé. Là, les annonces ne passent pas. Il n'y a pas de publicité devant ton contenu. Donc, qui dit pas de publicité devant le contenu, dit qu'il n'y a pas de paiement pour le YouTuber. T'es pas payé quand il n'y a pas de... C'est pour ça que les YouTubers vous disent souvent, c'est pas 1000 vues égale 1 euro ou quelques centimes. C'est 1000 vues de publicité. Et parfois, il faut faire 3000 vues pour faire 1000 vues de publicité. Bref, là, je pars un peu dans autre chose. En fait, ce qu'il faut juste bien comprendre, c'est comme dans tout. Si la télé que vous regardez, elle est devenue sage, s'il n'y a pas de prise de risque, si les gros mots sont bipés à la télé, si on a un contenu qui est très consensuel, eh ben c'est parce que la publicité fait vivre la télé, en tout cas en grande partie. Je parle pas forcément du service public, mais donc le contenu est adapté à pouvoir recevoir de la publicité. Et ça, il faut bien que vous le compreniez, YouTube est en train de se transformer, ça fait déjà pas mal d'années, mais ça s'accélère, est en train de se transformer en une espèce de télé. Et je pense que les contenus bipés, un contenu plus sage, qui est plus approprié à avoir de la publicité, va se multiplier et on va voir la disparition d'une certaine liberté de ton et un côté un peu sauvage, quoi. Alors, effectivement, l'alternative, c'est Tipeee. Et moi, je suis pas trop inquiet parce que la publicité sur YouTube représente même pas 10% du chiffre d'affaires de la chaîne. Donc, je dirais pas que j'en ai rien à péter parce que c'est quand même quelque chose d'important. Mais je panique pas. C'est absolument pas grave que la publicité soit coupée devant certaines de mes vidéos parce que mon chiffre d'affaires est surtout fait par Tipeee. Mais c'est pas un business model énorme non plus. Hein. Une grosse chaîne ne pourra pas remplacer son contenu par un modèle de crowdfunding aussi facilement. Il y a plein de chaînes, honnêtement, vous leur donneriez pas un Tipeee, même si vous regardez leur contenu. Réfléchissez-y. Je vois pas le lien entre le contenu de la vidéo et le droit aux annonces. Il est très simple, Coldiary. Mets-toi à la place d'un annonceur. Tu veux faire la publicité d'une barre chocolatée. Tu n'as pas envie que ta publicité de barre chocolatée soit devant un contenu où il y ait de la vulgarité ou des trucs un peu... parce que ça va rejaillir sur l'image de ton produit. C'est mauvais pour ton produit. Parce qu'en plus, il y a plein de gens qui croient que c'est les YouTubeurs qui choisissent leur pub. Hein, ça, je peux vous le dire. Les annonceurs veulent un contenu adéquat pour mettre leur publicité. Les clowns tueurs sont monétisés. Pour l'instant, oui, mais quelque part, n'y voyez pas que des mauvaises nouvelles là-dedans. Il y a un contenu, actuellement, il y a un contenu sur YouTube facile, inintéressant, vulgaire, rapidement fait et mal fait, qui plaît aux enfants, mais qui est de la merde, on va le dire, mais qui plaît aux enfants et qui gagne beaucoup d'argent. Ce contenu, petit à petit, va disparaître. « Oui, bah Mélanie, merci. Effectivement, ton image, c'est tout à fait ça. Les pubs, c'est comme des panneaux publicitaires. Tu vas pas mettre un panneau publicitaire devant un bordel ou un truc voilà, qui donnerait une mauvaise image à ta publicité. À Colgary, le problème, c'est que la modération automatisée de YouTube, elle a beaucoup de mal à déterminer elle-même qu'est-ce qu'une chaîne sérieuse et une chaîne pas sérieuse. Et un contenu sérieux, pas sérieux. L'intelligence artificielle a de grosses limites. Et que, je prends le cas de ma chaîne. Prenons le cas de ma chaîne. Je dis souvent couille, bite, cul. Enfin, j'ai des vulgarités dans mes vidéos. Vous avez déjà vu mes vidéos. À la limite, je comprends très bien un annonceur qui peut être choqué par mes vulgarités, qui n'a pas envie que ses publicités passent devant. Donc, vous vous dites oui, c'est un contenu sérieux. Jérôme ne mérite pas. Et c'est pas une censure. Ma vidéo n'est pas censurée, elle n'est pas retirée de YouTube. Simplement, les annonceurs ne veulent pas mettre les publicités devant mon contenu. Ben, le problème, Mélanie, c'est qu'aujourd'hui, oui, il y a des gens qui travaillent avec les annonceurs, mais je crois que vous vous rendez pas compte de la masse de contenu qui est créé toutes les heures sur YouTube et qu'un contrôle humain aujourd'hui serait impossible, complètement impossible. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le renforcer, mais il serait complètement impossible. Mais les robots détectent pas, les robots sont pas infaillibles. Ça devrait couper cet annonceur, mais pas tous. Mais tu sais, la plupart des annonceurs ne veulent pas être devant des contenus qu'ils trouvent vulgaires. C'est pour ça que la télé, tout est policé, que les gros mots sont bipés. C'est à cause et grâce, entre guillemets, ça dépend de où tu te places, à la publicité. C'est pas pour protéger tes oreilles chastes hein, qu'il y a des bips sur les gros mots. C'est pour les publicitaires. C'est pour les annonceurs. C'est là où je pense que le public comprend pas très bien ce qui se passe. Et moi, je vois beaucoup qui disent ouais, « c'est dégueulasse que tel YouTuber soit démonétisé et machin, etc. » Ouais, enfin, moi, je me mets à la place d'un commerçant qui passe sa pub. Il n'a pas envie d'être devant un contenu craignos, quoi. Alors, on pourrait avoir un long débat. Qu'est-ce qui est vraiment vulgaire ? Effectivement, est-ce qu'un contenu de télé-réalité où certes, il n'y a pas des gros mots, mais la vulgarité des gens, de leur comportement et la bassesse humaine est encore plus vulgaire qu'un bit poil couille? Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous, mais c'est presque un débat philosophique. Ah ben, c'est l'hypocrisie. Oui, bien sûr. Évidemment. Mais bon, ne vous étonnez pas, je vous le dis, hein, c'est mon pronostic, que le contenu, effectivement, de YouTube devienne, entre guillemets, plus clean et plus travaillé pour la publicité. Et ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Ça veut dire du contenu un peu différent risque de disparaître. Que les YouTubeurs, en tout cas les YouTubeurs dont le business model repose fortement sur la publicité, vont nettoyer leur contenu pour devenir plus, on va dire, annonceur friendly. C'est aussi simple que ça. Donc, quelque part, il se transforme en télé. Vu à la télé. Allez, on continue. J'ai été un peu long sur l'article, mais comprenez bien que c'est un problème de fond pour YouTube et, on va dire, du contenu audiovisuel sur le web. Après des années folles de liberté à peu près totale de faire ce qu'on voulait et de publier ce qu'on voulait, eh bien, les youtubeurs vont se policer pour, pas tellement pour des questions de censure ou de CSA ou je sais pas quoi, mais simplement pour pouvoir attirer la publicité. Parce que c'est comme ça que ça marche. Parce que vous n'êtes pas prêt à payer le contenu, quoi que vous en disiez. Vous n'êtes pas prêt. On en reviendra justement quand on parlera de Molotov TV. Allez, au niveau des annonces, j'ai absolument rien préparé ce matin. On va zapper les annonces, j'en ferai demain. je n'ai rien à dire au niveau des annonces. On va parler de Tumblr. Tumblr, souvenez-vous Tumblr. Qui a encore un Tumblr? L'appât du gain, désolé, hein, je rebondis là-dessus, l'appât du gain. Tu crois pas qu'il y a une marge entre l'appât du gain et vivre de son activité professionnelle? Il y a une marge quand même. Il y a une énorme marge entre l'appât du gain et gagner sa vie. Non, vous pensez pas? Et c'est marrant en France, dès qu'on parle d'argent, c'est l'appât du gain. En même temps, faire des choses pour gagner de l'argent, bah, ça s'appelle un boulot, quoi. Donc on ne peut pas non plus jeter la pierre en disant tout de suite c'est l'appât du gain. Tumblr, bah, vous connaissez quand même Tumblr, non? Où il n'y a que des jeunes là, des trop jeunes. J'ai un compte, mais tu l'utilises plus. Mélanie, t'as encore un Tumblr? Qui a encore un Tumblr? Ça m'intéresserait, en fait. Et qui l'utilise, hein? Pour stocker les photos, j'avais des blogs, mais c'est pourri. Jamais eu de compte, jamais eu. C'est Medium qui a remplacé, j'ai supprimé. J'avais un Tumblr il y a 5 ans. Je connais pas, jamais eu, jamais eu. Je sais même plus ce que c'est. Bah, Tumblr, en fait, c'était un système qui vous permettait de créer facilement du contenu sur Internet, de forme bloguesque, on va dire, de créer rapidement votre blog, en fait. C'était sans y connaître quoi que ce soit en programmation, en langage HTML ou quoi que ce soit, on pouvait facilement partager du contenu. Ça a été très à la mode, ça a déjà 11 ans, hein, quand même, Tumblr. Oui, c'est un CMS, c'est ça qu'on appelle un Content Management Service, un truc comme ça. Il y a pas mal de blogs, hein, qui ont commencé effectivement avec des Tumblr. Ça a été très à la mode. On en a beaucoup reparlé C'était en quelle année que Yahoo a racheté Tumblr? C'était la grosse annonce, quoi. C'était, ouais, on a pris Tumblr, le truc trop à la mode, en 1832. En 1832. Non, j'arrive pas à retrouver. Quand est-ce que Yahoo a racheté Tumblr? C'était en 2013, en mai 2013. Autant dire une éternité, le siècle dernier, quoi. Le siècle dernier, donc Tumblr rachetait, Yahoo rachetait Tumblr. C'est vrai que ça avait été, ça a presque été le début de la fin de Yahoo. Ça a été le signe de quand on a vu que ça prenait pas, et que, après ça a été une lente déconfiture quand même Yahoo. Bon, aujourd'hui Tumblr en tout cas appartient à Verizon. Verizon qui s'est fait une spécialité de racheter les boîtes dans le déclin avec son département Auth. Qui regroupe Tumblr, des trucs de Yahoo, AOL et des choses comme ça, quoi. Et qui sont d'ailleurs en train de complètement restructurer. Ils vont virer 560 personnes dans les différents départements d'Auth, dans la publicité, dans l'ingénierie et tout ça, pour essayer de rendre le truc, le bousin, un petit peu rentable, parce que c'est des boîtes qui perdent de l'argent comme vache qui pisse. Vulgarité, pas de publicité, vache qui pisse, bim, pas de pub. Hein, Jérôme, pas de pub, pas de pub, pas de pub. je m'en fous, je veux garder mon droit de dire vache qui pisse. Mais ce qu'on apprend, c'est que le fondateur et directeur de Tumblr, David Karp, j'ai déjà fait le jeu de mots, hein, ceux qui n'étaient pas là au sommaire. David Karp a annoncé lundi qu'il quittait la plateforme de blog qu'il a créée donc il y a 11 ans et que ça va être le directeur général actuel de Tumblr qui va prendre sa place comme CEO. En fait, c'était un contrat négocié. Quand il a été revendu à Yahoo, c'est souvent ce qui se passe, hein, dans ce genre de rachat. Pour éviter de racheter une boîte dont le patron était une figure charismatique et qu'une fois que le rachat est fait, le patron se barre ou les personnes importantes de la boîte se barrent. Généralement, quand vous rachetez ce genre de boîte, et Yahoo, quand ils ont racheté Tumblr, ils ont fait signer un contrat du type « tu restes pendant 4 ans, après tu fais ce que tu veux, mais tu as l'obligation de rester dans les 4 ans qui viennent ». Et là, on arrive à la fin de ce contrat-là. Et en gros, David Karp, Je donne, de toute façon, quelque part, créer son blog, je dis pas que c'est complètement passé de mode, hein. Il y a encore plein de blogs et il y a plein de gens qui adorent lire les blogs et il y a plein de trafic et ça marche très bien. Mais aujourd'hui, le blog en lui-même n'est qu'un lieu de contenu. Généralement, les gens ont créé plus. Yahoo avait assez de sous pour acheter Tumblr. Ben ouais, Yahoo avait cassé sa tirelire, hein, pour faire des rachats, hein. Trois mois de goulag en Sibérie. De quoi vous parlez, les chatrooms? Donc, c'est vrai que je vais pas dire que je donnerais pas cher de la peau de Tumblr, mais ça dépend comment ça évolue. C'est pas, c'est en plus par rapport à Medium, qui est effectivement le truc à la mode pour les blogs maintenant, Tumblr a moins bien pris le virage de la mobilité quand même. Instagrammeurs, youtubeurs, snapchatteurs, leurs blogs, sites servent surtout à vendre des produits dérivés, non plus à commenter réellement. Effectivement. Bah, de toute façon, on va là où les gens vont. Les gens, avec leur mobile, vont plutôt consulter de l'Instagram et des choses comme ça que de lire des blogs, quoi. Tumblr, c'est encore bien pour le cul, car il n'y a pas de censure. Ouais, effectivement. Mais tu vois, alors là, on revient au premier article. Oui, effectivement, il y a beaucoup de Tumblr avec du contenu sexy, pour pas dire autre chose. C'est très bien pour vous, mais un annonceur, du coup, il ne met pas de pub sur Tumblr. Parce qu'il n'a pas envie de se retrouver sur un truc de fesses, quoi. Et donc, c'est dur pour le business model. Alors là, vous allez me dire, oui, mais les sites porno, ils gagnent plein d'argent avec la publicité. Oui, mais c'est pas le même type de publicité. Et ils gagnent sur le volume, mais c'est pas des publicités très qualitatives. Et si vous croyez qu'ils gagnent beaucoup d'argent, je peux vous dire que le monde du porno du X a vu ses revenus baisser énormément par rapport à la période où ils vendaient des cassettes vidéo. C'est pas comparable. Donc oui, le porno survit dans l'ère Internet, mais on est quand même dans une ère où les gens ne veulent plus payer pour voir du porno, quoi. Et donc, on peut leur mettre des pubs, généralement, ces gens ont des adblockers en plus, mais c'est pas des gros business models, en fait. Bah, je sais, hein, qu'il y a des sites qui tirent bien leur épingle du jeu, mais ils travaillent sur d'énormes volumes, du coup, avec un contenu qu'ils ne payent pas et qu'ils volent à d'autres. Je suis désolé de dire ça, mais aujourd'hui, quand je dis que le business du X est difficile, c'est que produire du contenu et le vendre est très difficile. Après, piquer du contenu à des, qui est déjà fait et de faire un gros portail et de mettre de la pub dessus, oui, c'est rentable. Ce que le problème, c'est que avec ce genre de démarche, bah, ceux qui produisent le contenu, au bout d'un moment, ils vont dire, bah non, j'ai plus envie de le produire, je gagne rien avec, quoi. Et ça va être le problème d'Internet, hein. C'est qu'à force de pas vouloir payer le contenu, bah, au bout d'un moment, il y a des gens qui vont arrêter de le produire. C'est bien pour ça que la vidéo amateur marche autant, parce que c'est un contenu qui paye pas, en fait. Ouais, Jackie Michel gagne en filant 100 € aux acteurs. Ouais, bah tu vois, c'est quand même des business models de misère, quoi. Voilà, on va pas... Bon, on est en train de complètement dériver, on était sur Tumblr, et on part dans une analyse économique de l'industrie du X, ce n'est pas notre propos. Ce n'est pas notre propos, mais c'est quand même intéressant parce que tout ça permet effectivement à chaque fois de comprendre le problème d'Internet. Et ça va être le cas également, là on va parler de Molotov TV. Molotov TV, alors je sais que vous êtes beaucoup à apprécier et à utiliser Molotov TV, et que vous avez l'impression que ça marche bien, parce que beaucoup de monde l'utilise. Mais oui, mais en fait ils sont en danger, Molotov TV, ça marche pas bien, parce qu'ils ont beaucoup de mal à trouver leur modèle économique, et surtout les chaînes, dont ils prennent, enfin, le Molotov négocie avec les chaînes pour mettre du contenu sur Molotov, les chaînes ne font aucun cadeau à Molotov. En gros, Molotov, pour ceux qui connaissent pas, essaye de mettre à disposition de manière moderne pour notre génération, on va dire Netflix, Internet, le contenu de la télé pour qu'on puisse regarder en différé, pour qu'on puisse regarder les émissions quand on veut, etc. Ce qui en soi était une bonne idée. Alors, tout n'est pas parfait, hein. Je sais que Molotov a des bugs et ça marche pas forcément bien, mais c'est pas facile, hein, d'avoir du contenu qui vient d'autant de sources et de l'harmoniser comme ils l'ont fait. Donc, je leur jetterai pas trop vite la pierre sur les problèmes techniques. Le truc, c'est que le business économique, ben, marche pas, parce que combien d'entre vous payent Molotov? Qui est-ce qui paye Molotov? Alors, je sais que vous êtes beaucoup à regarder Molotov, donc ça, c'est pas la peine de me répondre. Mais qui d'entre vous paye Molotov? Philippe Gage, c'est trop marrant de lire ton nom parce que t'es l'homonyme du Philippe Gage que je connais. Je paye pas, j'utilise pas. Deux qui payent, pour l'instant trois qui payent. Nope. Trop cher. Bon, bah, vous voyez le fond du problème. C'est que on est beaucoup à l'utiliser. Moi, je sais que j'utilise Molotov pour regarder mes documentaires Arte. Avant, je passais par l'appli Arte pour le faire. Maintenant, je vais sur Molotov parce que ça me permet de temps en temps de trouver aussi des documentaires. Je regarde que des documentaires de la télé. C'est le dernier truc que je regarde à la télé, c'est des documentaires. Demain, tu me crées une chaîne YouTube avec que des documentaires, je regarde plus du tout du contenu et maintenant de la télé. Mais j'utilise Molotov, mais du coup, je serais pas prêt à payer. Je vais être honnête. Après, tu me dis 5 € par mois. Je sais plus combien c'est Molotov, mais tu me dis 5 € par mois, mais t'as les meilleurs documentaires du monde et toujours dispo, oui. Mais là, Molotov, il est encore quand même pris avec les vieilles règles. Moi, ce que j'appelle les vieilles règles de la télé, dispo pendant 7 jours, et ce genre de choses, quoi. Tiens, bah, c'est marrant, Mélanie, j'ai regardé hier le documentaire de France 2 sur les jeunesses hitlériennes. Bah si, mais mes films, je les regarde sur Netflix ou d'autres plateformes, quoi. Je les regarde jamais à la télé. Transfert, je connais pas. on le voit notamment, par exemple, M6 a demandé à Molotov de... parce que vous savez que vous pouvez télécharger le contenu dans Molotov, mais pour vous dire, hein, comment les chaînes de télé... À mon avis, elles percutent rien, ces pauvres chaînes de télé. On demandait à Molotov de ne pas interdire le téléchargement des émissions, mais qu'on ne puisse plus avancer ou reculer le scrubbing dans les émissions d'M6, parce que sinon, les gens, ils risquent de sauter la pub. Moi, je trouve ça triste, parce que au moins, on avait une initiative française qui a même été saluée à l'international avec Molotov TV, qui, quelque part, amenait du frais dans ce que j'appelle un monde très poussiéreux de la télé, qui s'accroche à leur vieux business model, qui, pour moi, est en train de mourir. J'ai l'impression de voir des mecs qui s'accrochent à une planche de bois au radeau de la Méduse, quoi. C'est... On peut plus passer la pub. Ben oui. Bon, après, encore une fois, en même temps, si on ne paye pas Molotov... Enfin, quelque part, vous le savez bien, il faut bien que l'argent rentre quelque part. Donc, c'est pas simple. C'est simple pour personne. Je ne veux pas trop jeter la pierre non plus aux chaînes télé qui voient... Alors, elles sont contentes, hein, les chaînes télé, que vous regardiez leur contenu. Mais enfin, si ça leur rapporte pas un rond, elles ont rien à foutre que vous les regardiez. Je suis désolé, mais elles font pas ça pour la gloire. C'est difficile. Et effectivement, les chaînes, elles sont un peu aux abois. Elles essaient de faire leur propre application mobile pour contrôler leur propre pub. J'ai pas le nombre d'actifs. Je l'ai peut-être, mais... Molotov TV est un vrai succès. Beaucoup de gens l'utilisent. Mais trop peu de gens le payent. Il y a très très peu de gens qui payent Molotov TV. Le problème, alors, on peut se dire, ouais, mais la télé, elle va crever, de toute façon, c'est une vieille dame, etc. Ouais, mais... Le problème, c'est que la télé crèvera peut-être en premier, mais c'est l'ensemble du contenu qui va mal, parce qu'on n'arrive pas à trouver l'équation. On n'arrive pas à trouver l'équation. Alors, Netflix l'a trouvé, effectivement, mais on n'arrive pas à trouver l'équation pour un service que les gens ne payent pas directement. Mais en même temps, ils veulent pas de pub. Enfin, c'est compliqué, c'est compliqué. Alors, la redevance, je suis d'accord que c'est énervant, la redevance. Mais enfin, la redevance, elle va pas financer tout le contenu de la télé tel qu'il est actuellement, hein, non plus. Et effectivement, ce qui nous pend au nez, c'est la redevance Internet pour maintenir à bout de bras des productions. Hein. Ça va se terminer comme ça, hein. Donc, voilà, il faut peut-être sauver le soldat Molotov. Moi, je trouve que c'est une initiative quand même qui est plus qu'intéressante, qui dépoussière complètement la télé. Moi qui suis quelqu'un qui ne regarde plus la télé depuis une dizaine d'années, Molotov, quelque part, m'a fait revenir vers le contenu de la télé. Ouais, mais ils vont pas la vendre si ça rapporte pas d'argent, tu sais, Molotov. Donc, je sais hein, que les abonnements se multiplient et on est là, bah, putain, faut payer son Netflix, faut payer son Lightroom, les abonnements se multiplient, etc. Et c'est compliqué. On arrive, la gestion du contenu va être quelque chose de compliqué. Et je pense que là où on va en pâtir, c'est qu'un certain nombre de contenus de qualité vont disparaître et commencent déjà à disparaître d'Internet. Faute de business model, en fait. Le problème, c'est qu'il n'y a pas une vraie plateforme. Bah, le problème, c'est que Molotov, effectivement, ne possède pas ses émissions par rapport à Netflix. Finalement, Molotov, sa grande fragilité, c'est qu'il est sous l'épée de Damoclès des télés qui peuvent décider à n'importe quel moment de retirer leur contenu, quoi. Je fais un parallèle audacieux, hein, très audacieux mais rapide. Moi, ça me fait quand même penser à ma période No Watch, quand je gérais No Watch. Une des grandes difficultés de No Watch, c'est que le contenu n'appartenait pas à No Watch et que n'importe quelle émission pouvait décider du jour au lendemain de partir de No Watch. Et ce qui rendait le contenu ingérable, en fait. Ce qui rendait presque la boîte ingérable, en fait. C'est un peu difficile, ce genre de business model. Donc, si vraiment vous regardez beaucoup Molotov, que vous en servez beaucoup, ça vaut peut-être le coup à réfléchir, est-ce que je m'y abonne pas? Sous peine, effectivement, de soyez pas surpris si Molotov, dans un an, ça sera pas tout de suite, mais Badlel, on a déjà vu d'autres excellentes initiatives, comme ça, très utiles et qu'on vous trouvait géniales, bah, disparaître parce qu'elles n'avaient pas leur modèle économique. Hein. Il suffit pas d'être utile, hein, il faut être rentable. C'est triste, mais c'est comme ça. Allez, on continue. Putain, je suis super en retard, comme d'hab. On continue. Alors, juste pour parler rapidement de Facebook. Facebook qui travaille effectivement sur un renforcement de l'intelligence artificielle pour la détection des tendances suicidaires. On sait, effectivement, que sur YouTube, il y a déjà eu des histoires hein, et de suicides en direct et d'adolescents qui, effectivement, à tendance suicidaire, utilisaient la plateforme pour prendre à témoin aussi des gens. Donc, il y a des phrases clés qui existent. Je dirais pas que c'est facile, mais il y a généralement des patterns, des répétitions dans quelqu'un qui est dans un état dépressifs graves et cliniques et suicidaires, il y a des moyens effectivement de détecter ça. Ouais, 3 articles en 44 minutes, ouais, je suis pas bon là ce matin. Mais oui, mais c'est vous la chatroom, vous êtes passionnant à lire, donc je vous lis trop en fait. Et effectivement, Facebook pense avoir une carte à jouer là-dessus, je pense qu'ils ont raison. Bon, après, il faut pas que ça devienne trop intrusif non plus. Bon, on le sait, hein, de toute façon, notre contenu est surveillé, en tout cas par des robots. Là, il y aurait effectivement tout un système d'alerte. Parce que tout l'enjeu, effectivement, d'une prévention du suicide, c'est de réagir suffisamment vite pour vraiment prévenir le suicide. Donc, il faut que l'intelligence artificielle soit capable de détecter en amont ces spirales noires dans lesquelles les personnes à tendance suicidaire se retrouvent. Et ça peut arriver à, vous savez, c'est pas que des gens tristes hein, qui se suicident, ça fait partie des maladies psychiatriques qu'on a, qui sont des vraies maladies. Et un malade, ça a d'abord été quelqu'un de sain. Donc, je sais qu'il y a certaines personnes qui se disent, ouais, non mais c'est des gens faibles, les gens qui. Je peux vous dire que ça touche des gens et c'est très surprenant. Enfin, c'est inquiétant, surprenant. Après, il y a, et ça, beaucoup de psychiatres pourront le dire, effectivement, des patterns, des modèles qui sont identifiables pour pouvoir diagnostiquer, effectivement, une tendance suicidaire. Oui, après, c'est pas que biologique, mais c'est pas parce qu'une maladie est dans la tête que c'est pas une maladie, en fait. Et tout ça pour dire, ouais, moi, je pense que là, pour le coup, Facebook... Et c'est intéressant, ce genre d'initiative, parce qu'on parle souvent dans cette émission des côtés négatifs de l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle peut avoir aussi des effets bénéfiques dans ce genre de recherche. J'enchaîne, hein, sans transition. SoftBank, ça va pas beaucoup vous intéresser. Je l'ai mis parce que moi, ça m'intéresse, mais je vais vous en parler rapidement. SoftBank, vous le savez, c'est un capital japonais qui investit beaucoup dans la tech, et SoftBank aimerait racheter des actions Uber. Alors là, vous dites, mais Uber, avec tout ce qui se passe de pas bien chez Uber, on en a parlé hier, hein, le problème du hacking de plein d'informations chez Uber, sans parler des scandales de... Oh, harassment. Je trouve jamais le mot français. Aidez-moi la chatroom. Harcèlement. Pff, oh là là. De harcèlement sexuel et bon, on va dire l'état d'esprit de Hubert sous Kalanick, qui paye le prix fort aujourd'hui. On se dirait, Hubert, moi par exemple, là, Hubert, j'y mettrais pas mes sous dedans. De toute façon, Hubert n'est pas encore à la bourse. Il faut le savoir. Uber, vous pouvez pas acheter des actions, c'est encore sur le marché privé, comme on appelle ça. Mais SoftBank, c'est pas des fous. SoftBank, en fait, ils veulent racheter des parties d'Uber, mais là, ils ont proposé 30% du prix demandé, enfin de l'évaluation boursière. Donc quelque part, SoftBank a anticipé une baisse, mais estime quand même que c'est une bonne affaire. Je pense qu'ils ont pas tout à fait tort, parce que en fait, c'est un pari. Si le nouveau patron d'Uber arrive à redresser l'image de marque d'Uber, d'avoir acheté du Uber 30% moins cher peut être une bonne affaire. C'est risqué, mais ça peut. Donc voilà en tout cas pour SoftBank. C'était une petite news qui intéressera peut-être quelques investisseurs dans la chatroom. Mais pour l'instant, je vous le reprécise, Uber, vous ne pouvez pas acheter des actions Uber. Ils ne sont pas rentrés en bourse, si je me trompe. Non, ils ne sont pas rentrés en bourse, ouais. Il y en a qui me contredisent ou pas? Non. Non, aujourd'hui, on va pas parler du Bitcoin. On en reparlera quand ils auront... Ils sont pas loin des 10 000 dollars, là, je crois, Bitcoin. Ils pourront pas rester indéfiniment sur le marché privé. Là, je vais pas vous expliquer pourquoi, mais il y a un moment, t'es obligé, t'es quasiment obligé de rentrer en bourse. Mais tu peux essayer de retarder ce moment-là le plus possible, effectivement. Snapchat, on a presque tendance à l'oublier, ce pauvre petit Snapchat qui se fait pomper toutes ses bonnes idées. Et ben là, ils ont sorti plein de bonnes idées qui vont être pompées par Instagram dans 2 mois. Je suis cynique, mais c'est ce qui risque de se passer. C'est assez sympa, là, ce qu'ils ont sorti. Ils ont sorti des nouveaux filtres Instagram qui mélangent de l'intelligence artificielle de reconnaissance des images. Si, par exemple, vous postez une image ou une vidéo d'un chien, ils vont vous proposer, du coup, des animations liées au type de contenu automatiquement. Oui, donc il est presque à 10 000, on est d'accord, le Bitcoin. J'ai pas dit qu'il était à 10 000, j'ai dit qu'il était presque à 10 000. 9 956, ouais, il est presque à 10 000. Voyez, par rapport à ce que vous postez, ils vont vous proposer, en fait, des filtres pour pouvoir illustrer un peu. C'est intéressant parce que, vous voyez le côté utilisateur, ah, c'est sympa, je prends une photo de chien, j'ai même plus à chercher le filtre chien, on me le propose. Est-ce que vous êtes encore là? J'ai été coupé. Est-ce que vous êtes encore là ou pas? Ouais, c'est bon, ça a repris. Oui, j'ai eu un coup de fil. Désolé, normalement, les coups de fil ne passent pas, mais ceux de ma famille, oui. Et je crois que mon père a oublié qu'il faut jamais m'appeler avant 9h30. C'est revenu, bon, c'est le principal. Oui, c'est intéressant à plusieurs niveaux, parce que nous, utilisateurs, effectivement, bah, c'est sympa d'avoir des filtres qui sont liés au contenu qu'on mettrait sur Snapchat. Mais pour Snapchat, c'est intéressant, parce que ça va permettre de vendre, après, aux annonceurs, de la contextualisation. Hein. Tant de gens ont posté une dinde rôtie à Thanksgiving, donc potentiellement, ça en fait une cible qualifiée, comme on dit, une cible qualifiée pour être susceptible l'année prochaine d'être intéressé par l'achat d'une dinde à prix cassé. Voilà, je vous fais un peu une... À quoi servent vos données? Voilà, c'est ça. Ils vont s'en foutre que Jérôme a acheté une dinde et a posté une photo de dinde pour Thanksgiving. Ça, ils s'en foutent. Mais par contre, de savoir que 17% des utilisateurs de Snapchat ont posté une photo de dinde rôtie à telle date, telle heure, donc ça veut dire qu'ils la faisaient cuire à telle heure, machin, etc. Et voilà le type de commentaires qu'ils ont mis. Ça, c'est des données qui vont intéresser potentiellement un mec qui vend des dindes, quoi. C'est, voilà. Hélas, comme le dit Vertige, t'as raison, est-ce que c'est ça? C'est une photo de cochon d'Inde, oui, tout à fait. Est-ce que c'est ça qui va sauver le soldat Snapchat? Je sais pas. Bon, après Snapchat, ils ont dit refonte complète de Snapchat bientôt. Là, c'est pas encore la refonte. Ils ont compris un truc, Snapchat. Il faut innover. Il faut continuer à innover. Bien sûr que Instagram leur piquera les filtres dans quelques mois. Mais c'est pas grave. Ils les auront eu en premier. Ça continuera à attirer du monde qui trouvera ces filtres sympas. Donc, ce que Snapchat est en train de faire en ce moment, c'est ce qu'il faut faire. C'est pas parce qu'on te pique tes idées qu'il faut t'empêcher d'en avoir des nouvelles. C'est des enfants, ils achètent pas des dindes. Ouais, mais le public de Snapchat, en tout cas, Snapchat voudrait que son public vieillisse. Et le jeune qui poste une photo de dinde préparée par sa maman cette année, dans 2 ans, il aura peut-être son propre appart et il sera fiancé et il achètera sa première dinde. Effectivement, Jérémy, mon exemple n'était peut-être pas le meilleur. Oh mon Dieu, nous avons détecté une consommation excessive de dinde le 25 décembre. Mais que se passe-t-il? Nous devrions inventer un jour férié ce jour-là. C'est pas faux. Mon exemple n'était peut-être pas le meilleur. Mais c'est plutôt... Je sais pas, alors la dinde était un mauvais exemple, mais Avec les photos, ça va permettre de déterminer, par exemple, les modes de cuisson des dindes. Comment les gens aiment faire cuire leur dinde. C'est ces habitudes de consommation qui sont intéressantes. Non, et puis s'il prend la dinde en photo, c'est quand même que quelqu'un l'a acheté, donc il y a quand même un consommateur traqué, tout à fait. Et même si l'info de « regarder la dinde que ma mère a faite », c'est une info qui a de la valeur pour le marketing. Parce qu'ils peuvent très bien envoyer une offre aux gamins, c'est de dire « Hé, demande à ta mère d'acheter la dinde du schmoll cette année ». Bon, ils ne le font pas parce qu'on n'a pas le droit, mais bon, vous avez compris le principe. Et pourquoi c'est intéressant pour Snapchat? Parce que Snapchat doit gagner de l'argent. C'est leur gros problème. Snapchat, ils n'en gagnent pas assez, là, de l'argent. Il vaut mieux la mettre au four après l'avoir semée. Ok, tout le monde y va de sa recette de dinde. Je continue, je n'ai plus que 5 minutes pour faire 3 articles. Mon Dieu, mon Dieu. Allez, bon, on n'y arrivera pas, mais on essaye toujours. Motorola qui ridiculise Samsung à la suite de sa pub qui trollait l'iPhone 10. Alors, quelle est la dernière pub Motorola? Je vous la montre, mais je vais la décrire en même temps pour ceux qui nous écoutent en audio. Donc, nous avons une personne qui rentre chez elle, un peu comme la pub Samsung qui se moquait de Motorola, et il est trop content avec son Samsung, il le montre à sa nana, il dit « Waouh, regarde la super vidéo sur mon super écran hyper grand Samsung !» Et sa femme lui dit « Ouais, t'es vraiment une petite bite !» Et elle prend son Motorola, elle clipse le dos avec un picoprojecteur dessus, et boum, elle projette la vidéo sur le mur, et là le mec il fait « Waouh, t'es trop forte !» Voilà. Putain, ils auraient dû me faire réaliser la pub. Elle était bien mieux, la mienne. Ouah, t'es trop forte. Ça, tu vois, c'est du claim publicitaire. Bref, c'est l'arroseur arrosé. Hein. Samsung, ça leur pendait au nez. À force de se moquer des autres, eh bien, il faut être prêt à se faire moquer de soi. C'est de la bonne pub. Très honnêtement, quand j'ai vu comme elle clipsait son picoprojecteur et le machin, je me suis dit, mais qui va acheter un picoprojecteur comme ça pour son téléphone? Faut l'avoir sur toi, le picoprojecteur. Faut le connecter. Faut pas être trop loin du mur. Faut que la mise au point se fasse. Je sais pas, j'y crois pas. Comment on écoute l'émission en audio? Elle est disponible sur iTunes, hein, l'émission. Le replay est disponible en audio sur iTunes. J'en fais pas trop la publicité parce que je veux pas dire que ça me sert à rien hein, de qu'elle soit disponible en audio, mais c'est une commodité que je mets à votre service. Mais il faudrait pas que ça m'enlève trop de monde de YouTube, quoi. Mais vous pouvez, vous pouvez regarder et écouter l'émission en audio sur iTunes. Moi, c'est ce genre de pub que j'aime et je m'en fiche du produit, objet de la pub. Bah, t'as tout compris, Nazado. Les pubs que vous aimez sont pas toujours des bonnes pubs. Il y a des pubs qu'on trouve rigolotes, superbes, vachement bien. Mais alors, le produit, on s'en tape le coquillard. Et ça, c'est de la mauvaise pub. Même si vous la trouvez bien, c'est de la mauvaise pub. Les pubs comparatives sont marrantes. Ouais, moi, je trouve que c'est bon enfant. C'est bon enfant de la part de Motorola. Et c'est bien joué parce que quelque part, décorner un petit peu Samsung, c'est pas une mauvaise idée. Hein. Parce que Samsung est un peu en train de s'appeliser dans le monde Android. C'est un peu Samsung dans sa tour d'ivoire qui méprise tous les autres Android, quoi. Bah, il mérite de se prendre quelques coups de griffe. Voilà. Allez, 1 minute, 2 articles. Bon. Est-ce que vous pensez, là, de sondage dans la chatroom, est-ce que vous pensez que vous avez un problème d'addiction avec votre smartphone? Soyez franc, non pas avec nous, mais soyez franc avec vous-même. Est-ce que vous pensez avoir un problème d'addiction avec votre smartphone? Est-ce que vous pensez que vous le regardez trop? Est-ce que vous pensez que ça vous démange toutes les 5 minutes de regarder vos notifs? Ouais, mais c'est bien, c'est bien. Vous êtes, au moins, vous êtes honnête avec vous-même. Vous reconnaissez, c'est la première étape de la guérison. Hein. Vous avez, on a tous, et moi le premier, hein, j'ai un problème d'addiction avec mon smartphone. Eh bien, heureusement, Clemens Schillinger, un designer autrichien, a pensé à nous et a pensé à comment nous sortir de ces phénomènes d'addiction. Et il lance, alors c'est une œuvre d'art, mais c'est, je pense qu'il est en avance sur son temps, je vous expliquerai après. Il lance des objets comme ça en bois qui vont vous permettre petit à petit de vous désaccoutumer de vos gestes rassurants du smartphone, les slides swipe, le slide vers le bas, le slide vers le côté, avec un système donc de boulier, hein, de boule en bois avec voilà, ça va vous permettre au niveau des gestes de retrouver les gestes du smartphone sans avoir l'addiction du contenu et donc petit à petit de vous sevrer en fait de votre smartphone. Alors bien évidemment, c'est une œuvre d'art, c'est pas un produit que vous pouvez trouver, mais je trouve ça intéressant. Ça fait plusieurs années que je dis, et ça arrive plus tard que prévu, mais je sens bien le contre-coup, et ça va être la merde pour ma chaîne YouTube du coup, mais je sens bien quand même une mode anti-tech, anti-smartphone arriver. Je pense que la hype de dans 5 ans, ça sera de ne pas utiliser de technologie. Je le sens venir depuis pas mal d'années, ça prend plus de temps que je l'avais prévu. Ça veut pas dire que tout le monde le fera, mais il y aura une forme de snobisme qui consistera à ne pas avoir le digital detox, c'est saut 2016, c'est vrai. Mais je pense que ça ira plus loin que le digital detox. Ça ira dans le no-tech. Ah, tiens, une bonne idée de nom, ça. Suffit d'enlever le W. En gros, dans 5 ans, ma chaîne YouTube, je vous présenterai des cours de macramé, comment faire de la poterie, aller vivre dans une grotte, revenir aux choses simples, quoi. Et anti-tech. Parce que la tech nous détruit. On sera dans un monde où il y aura des robots qui feront des sopères arrière juste avant de vous tuer, avec des visages en plastique de vieilles liftées qui reproduisent des mimiques humains. On vivra dans un cauchemar. On aura envie de rejeter tout ça. Ah oui, non, mais mes vidéos, à ce moment-là, elles seront plus tournées. Elles seront tournées avec de la vieille péloche. Et je ferai le montage avec des ciseaux. Avec des ateliers de création de tisane, tout à fait, des huiles essentielles, des trucs vraiment bien, quoi. Et on s'enverra des courriers, on écrira à la main des choses. Fou. Complètement fou. Bref, les artistes sont toujours en avance sur leur temps. Il faut toujours regarder ce que font les artistes. Ils comprennent les choses bien avant tout le monde, généralement. Je t'enverrai mon faucon. Ouais. Et les pigeons ne seront plus des consommateurs Apple, mais ça sera notre messagerie. Allez, je termine par un article qui m'a fait mais hurler de rire. Vous n'avez peut-être pas le même humour que moi. Ça s'est passé en Belgique. Le musée de la photographie de Charleroi a attaqué le musée de la photographie de Bruxelles pour plagiat, avec des avocats et tout. Le musée de la photographie de Charleroi exigeait que le centre d'art Recyclard abandonne le titre de musée de la photographie dans la capitale belge, sous peine d'une amende d'astreinte de 500 € par utilisation, chaque fois qu'ils utilisaient musée de la photographie. Donc ça peut chiffrer. Eh bien, qu'est-ce que le musée de la photographie de Bruxelles a fait? Ils ont dit, ok, on n'a plus le droit de s'appeler le musée de la photographie, eh bien, on se rebaptise, et ils se sont rebaptisés le fusée de la motographie. Je trouve ça énorme, je trouve ça génial. Je dis bravo, bravo à l'humour. Ils ont juste inversé deux lettres, donc c'est la fusée de la motographie. Je trouve ça génial, mais absolument génial. Et il mériterait qu'on aille plus les visiter maintenant que le musée de la photographie de Charleroi, de par leur éclair d'humour et fusée de la motographie. Je trouve ça absolument génial. Ça marche encore avec moi. Bref. Donc bravo en tout cas au Centre d'art bruxellois. Vous avez égayé mon matin hier. J'avais déjà l'info hier, mais on avait décidé de pas la faire, mais je vous l'ai faite aujourd'hui quand même. Le fusée de la motographie à Crucelles, ouais. C'est très bon. J'ai trouvé ça très bon. Bravo les Belges. Vous êtes les meilleurs quand même, les Belges. Vous êtes les meilleurs, il n'y a pas à dire. Il n'y a pas à dire, et c'est la fin de ce Techscope. J'ai 5 minutes de retard, c'est pas mal pour quelqu'un qui n'avait fait que 4 articles en 40 minutes. Bon, c'est vrai que les derniers articles n'étaient pas aussi développés que les premiers, mais c'est ça un peu Techscope. Et je vous remercie en tout cas de l'avoir suivi, de l'avoir présenté avec moi. J'ai une question Platinium ce matin, donc on va commencer par la question Platinium avant que vous puissiez poser les vôtres. Donc retenez-vous, commencez à taper vos questions, pensez à les copier pour pouvoir les coller, hein, pour avoir une chance que je vois vos questions. Je ne vois pas toutes les questions, hein, donc ne soyez pas vexés. Mais on va commencer par la question Platinium de JP Life qui me demande « Bonjour, quels sont les avantages et les inconvénients de prendre un micro-enregistreur comme le Zoom H2 par rapport à un micro comme le Rode VideoMic ? Merci de ta réponse. » Alors, plusieurs choses à comprendre sur les micros. Les micros ont des formes et des utilisations différentes. Tu ne fais pas la même chose avec un vidéo mic qui est un cardioïde directionnel, donc qui est fait pour prendre le son devant lui, exclure le son sur les côtés, en se rapprochant le plus possible de sa source sonore. C'est à ça que sert le vidéo mic. Le Zoom H2, alors il a plusieurs modes. Ce qui complique un peu les choses, c'est que vous avez des micros, souvent avec, vous avez vu, ils ont deux cellules croisées comme ça, comme les Zoom H2, qui vont vous permettre à la fois de faire du cardioïde, c'est pas exactement le même type de cardioïde qu'un canon, soit de faire de l'omnidirectionnel. L'omnidirectionnel, c'est prendre le son tout autour. Bref, ce qu'il faut comprendre, et c'est ça qui est important, c'est que tu peux pas te dire je vais avoir un micro qui fait tout. Ça n'existe pas. Donc il faut tester. L'avantage d'un enregistreur, d'un micro-enregistreur, c'est que, indépendamment du fait d'être un micro, c'est surtout un enregistreur. Et ça peut être utile pour plein de choses. Parce que de prendre son son sur autre chose que la caméra avec laquelle tu filmes, c'est d'abord une sécurité. Mais c'est également plus de qualité, parce qu'un enregistreur sera toujours meilleur à prendre le son qu'une caméra. Là, on va dire la plupart du temps, dans nos niveaux d'investissement. C'est-à-dire que moi, je sais très bien que si je prenais le son sur mon enregistreur externe, moi j'ai le H5, sur un enregistreur externe, j'aurais un meilleur son. Le seul problème, c'est qu'il faut le recaler au montage. Honnêtement, aujourd'hui, ça demande beaucoup moins de travail qu'autrefois de caler un son qui a été fait sur un enregistreur externe au son témoin d'une caméra. J'ai fait une vidéo sur le sujet, vous pouvez aller voir. Donc, tout ça pour te répondre, un Zoom H2 peut être intéressant, non pas seulement pour... Quelque part, tu peux très bien mettre un vidéo mic sur un Zoom H2 et du coup avoir un truc son qui n'est pas lié à ta caméra, que tu peux rapprocher de ton sujet sans avoir un grand fil qui pendouille entre ta caméra et l'enregistreur. Bah, le micro-cravate, ça marche dans certaines situations, c'est catastrophique dans d'autres. Regardez le salon de la photo 2016 et celui de cette année. Et vous me direz si on avait un meilleur son l'année dernière où j'avais essayé les micro-cravates au salon de la photo, ou un meilleur son cette année avec mon super cardioïde, le SM58. Et vous me direz quel est le meilleur son. Vous verrez. Donc, ça montre bien qu'il n'y a pas un micro qui permet de tout faire. Les micro-mains, on n'a rien inventé de mieux dans des environnements bruyants. Alors, c'est pas hyper joli, mais le son est meilleur. Et comme le son est plus important que l'image... Donc, voilà pour ta réponse. J'espère qu'elle t'a suffi. Quelque part, tu peux très bien prendre les deux. Tout dépend, en fait, de comment... Le truc d'enregistrer son son en externe, pourquoi moi, par exemple, je le fais peu, c'est parce que ce que je tourne, c'est surtout sur un mode reportage, pour pouvoir monter vite. Et j'ai vu quelqu'un tout à l'heure disait « tu produis pas beaucoup de contenu ». Eh, oh, regardez quand même tout ce qu'on a produit ces derniers temps, quand même. Il y en a du contenu sur la chaîne. Bon, en ce moment, c'est difficile, parce qu'effectivement, je manque d'un assistant, mais il y a au moins une vidéo par semaine. C'était pas le cas il y a pas si longtemps. Hein. Bref. Il y a eu un super chat. Merci, super. Merci beaucoup, Android Windows. J'ai acheté le RX M3. Je vais regarder tes tutos photos. Eh ben, écoute, amuse-toi bien. En tout cas, c'est un très bon appareil, hein, le RX100. En même temps, Jérôme est un travailleur pantouflard et migraineux. Oui, là, c'est un méchant troll, Jérôme. Pour le stage, écoute, ça va probablement pas être un stage. Je suis en... mais bon, je suis en train de travailler sur des solutions, mais ça prend du temps aussi. Ah, effectivement, je vous fais pas 3 vidéos par semaine. Mais si je vous faisais 3 vidéos par semaine, ça serait pas les vidéos comme je les fais, ça c'est clair. Mais honnêtement, depuis plusieurs mois, regardez, il y a au moins une vidéo par semaine. C'est quoi les différences entre le H2 et le H5? Ça va être surtout être au niveau des branchements et des capacités, le nombre de micros que tu peux mettre dessus. Bah, une vidéo par mois, c'est ce que je faisais à l'époque où je travaillais. Si un jour je dois reprendre un boulot, peut-être que je continuerai la chaîne en faisant qu'une vidéo par mois. Mais je suis content effectivement d'avoir une communauté qui, dans l'ensemble, préfère effectivement la qualité à la quantité parce que ça va plus dans ma manière de travailler en fait. Très honnêtement, faire du contenu facile, vite fait, et j'en produirais beaucoup, je pourrais le faire, hein, mais en fait ça m'emmerde. Je me fais chier en fait à monter des vidéos rapides, ça m'ennuie. Et si c'est pour gagner aussi peu d'argent en faisant un truc qui m'emmerde, je le ferai pas. Donc après, vous voyez, on peut choisir, et moi c'est mon choix dans la vie d'avoir fait un métier, de faire un métier en ce moment de ma vie qui me rapporte mais beaucoup moins d'argent que ce que je faisais autrefois. Mais vous pouvez même pas imaginer en quelle proportion. Mais en même temps, je prends du plaisir à le faire. Ça, c'est important aussi, quoi. Surtout une vidéo de qualité, tu peux la visionner plusieurs fois. Perso, j'ai maté plein. Ah bah merci, effectivement, Claudio. Oui, je le vois d'ailleurs dans les stats. Il y a beaucoup de gens qui re-regardent nos vidéos. Et ça, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Et après, bah oui, je fais moins de vues que des youtubeurs qui vont produire plus régulièrement et beaucoup de contenu. Parce que le public plus jeune nuise la qualité. Enfin, ils vont surtout... voilà, ils sont impatients. Ils veulent les choses tout de suite. Qu'importe finalement le rendu. Parce qu'ils regardent pas forcément énormément la vidéo. Ils l'écoutent plus qu'ils la regardent. Ils sont en train de lire leur Snapchat en même temps, etc. Et je ne critique pas. Mais voilà, du coup, moi, je suis pas stressé par l'audience. Ce qui me stresse, c'est est-ce que mon contenu va plaire à ma communauté? Je faisais quoi dans le temps? Je travaillais dans la pub, justement. J'étais directeur artistique en publicité. Et oui, je ne vous le cacherai pas, ça n'a pas toujours payé, mais il y a des époques où ouais, j'ai bien gagné ma vie. Ouais. C'est pour ça que le truc qui me fait sortir de mes gonds, c'est les gens qui me disent tu penses quel argent, machin, etc. Putain, et si je voulais vraiment mieux gagner ma vie, je ne ferais pas ce que je fais en ce moment. Hein. Allez, des questions. Marion bosse dans quoi? Ben, tu peux lui poser la question, mais elle travaille, elle est UX designer chez Dailymotion. Allez, ben, je prends des. Vous n'avez pas beaucoup de questions aujourd'hui, hein? Vous avez peu de questions. Ben, je vais vous laisser alors. Si vous n'avez pas de questions. D'un point de vue purement esthétique, quelle est votre vidéo préférée? J'aime beaucoup la vidéo que j'ai faite de nuit avec le GH5. Pour plein de raisons, en fait. Elle existe en deux versions. Il y a une version, on va dire, internationale où il n'y a que les images de Paris la nuit et puis il y a une version plus commentée. Mais c'est une des vidéos que j'ai préféré faire. Quel conseil tu peux me donner pour faire une pub vidéo pour ton association? Putain, c'est pas facile, hein, en un mot. N'oublie pas ton association. N'oublie pas que tu as un truc à vendre. N'oublie jamais ça. Que ta pub ne devienne pas une pub pour ta pub elle-même. N'essaye pas de faire une belle pub, essaye de faire une pub efficace pour ton association. Et pas une pub que tu pourras montrer à ta mère en disant oh, « Regarde, c'est joli ce que j'ai fait ». Non, faire un truc efficace. Amazon TV par rapport à Netflix, c'est bien moins bien en termes d'interface. Moi, j'ai des problèmes de sous-titrage avec Amazon Prime. C'est quand même pas la même qualité de service, hein, les vidéos d'Amazon et celles de Netflix. La ligne blanche de Beck BD. Ouais, Beck BD, il a un peu craché dans la soupe, hein, parce qu'il a bien profité de la pub, hein, ce salaud. Et il a donné quand même une vision très caricaturale. Je dirais pas que ça n'existait pas, mais il a condensé dans son livre des caricatures quand même du milieu publicitaire. Appli pour la gestion des tâches. Écoute, de plus en plus, j'utilise les applis natives d'Apple. Donc, rappel, je suis en train d'utiliser de plus en plus ça, en fait. Sinon, la gestion des tâches collaboratives, nous, on travaille beaucoup avec Trello pour organiser la chaîne. Mais tu sais, Dailymotion, je pense que tu réalises pas ce que c'est que Dailymotion, parce que on a l'impression que c'est... Parce qu'en France... Mais tu sais que c'est encore très regardé, hein, dans certains pays, Dailymotion. Puis là, ils sont en train de rebooter, Dailymotion. Pas eu de proposition pour travailler sur une chaîne télé? Si, mais ça ne m'a pas du tout intéressé. Parce que de toute façon, ils n'ont pas d'argent, les chaînes télé. Puis ils veulent pas te payer. Ils croient que c'est encore notre fantasme de bosser à la télé. J'en ai rien à foutre de bosser à la télé. Ça ne me fait absolument pas fantasmer. Oui, ben j'ai fait un tweet hier, le Panasonic G7, il y a une très très bonne offre en ce moment avec l'objectif 1440 à la FNAC pour 600 €. Allez sur mon tweet, vous aurez le lien d'affiliation si vous voulez l'acheter. Tu y as travaillé. Mais justement, je pense que ça me donne un regard assez unique d'avoir bossé dans la pub. Parce que je sais très bien comment marche ce marché, comment marchent les publicitaires. Je pense qu'il y a des choses très vertueuses dans la publicité, contrairement à ce que vous croyez, que c'est une fonction essentielle du commerce, la publicité, et que c'est ça qui fait marcher le commerce, et le commerce est quelque chose de sain quand c'est fait dans les règles, et dans les règles de l'art. Mais je pense que ça me donne un regard particulier, effectivement, sur comment fonctionne notamment YouTube et ce genre de choses. Parce que on a vite fait de croire que les annonceurs et les publicitaires sont là juste pour donner de l'argent aux gens qui font du contenu. C'est un peu plus compliqué que ça. Ils investissent de l'argent et il faut que ça leur rapporte. Donc voilà. Bref, on va pas repartir là-dessus. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Il n'y a pas vraiment de différence entre le Black Friday et le Cyber Monday. On va juste dire que c'est la prolongation du Black Friday et le Cyber Monday maintenant. Autrefois, la différence, c'est que le Black Friday se passait surtout dans les magasins et Cyber Monday sur Internet. Mais maintenant, c'est tout. Passez une excellente journée à tous. Non, c'est moi qui présente demain. C'est Marion qui présentera jeudi, je crois qu'on s'est mis comme ça. Donc, ça va être moi demain. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Ciao.